CAQ.
100% parler, tout l'été.
Vous êtes dans Marceau le matin. Avec Jeff Fortin, Pascal CV et Alex Laramé. On va parler d'économie avec Gabriel Jugard. Qu'aime que j'aime ce chroniqueur et cet intervenant-là. Il nous arrive toujours avec des bonnes pistes de solutions puis des problématiques réelles qu'on ne va pas nécessairement passer. Gab Jugard, l'angle mort, il connaît puis il l'étudie à plein. Mais avant, grosse nouvelle à la CAQ, Alex Laramé, un départ.
Un autre départ qui s'accumule pour la CAQ, c'est la députée Chantal Soucy, élue dans Saint-Hyacinthe, qui a annoncé aujourd'hui, ce matin en fait, qu'elle ne se représenterait pas à l'Assemblée nationale en vue des prochaines élections. Ça faisait quand même 12 ans là, qu'elle occupait son poste de députée, mais là, ça vient environ 3 semaines du début de la campagne électorale, à 2 mois du scrutin. Puis on se rappelle que la CAQ avait réuni en fait tous ses élus et avait demandé là, au mois de mai, à savoir, est-ce que vous allez vous représenter, vous ne représenterez pas? Puis là, on avait eu une vague d'annonces. Mais là, Chantal Soucy, visiblement, avait dit probablement qu'elle allait se représenter pour finalement revenir sur sa décision. Mais je suis allé voir tout bonnement comme ça sur Québec 125. Ça ressemble à quoi dans Saint-Hyacinthe? Le PQ est à 41%, la CAQ est à 25%. Donc peut-être que ceci explique cela.
Je pense que ceci explique pas mal cela. D'ailleurs, du côté de la CAQ, on avait donné une date limite qui était à la fin mai. Puis finalement, on sent que ça s'étire jusqu'au mois d'août, cette date limite-là. Alors, on n'a pas été capable justement de faire en sorte là, que les différents députés soient en mesure de prendre leurs décisions au bon moment. Puis c'est bizarre aussi parce que ça tombe au lendemain de Pascal de la sortie d'un sondage Palace qui n'est pas très favorable à la CAQ.
Tu penses pas que c'est choisi?
Ben, je sais pas. Là, Alex nous a rapporté Québec 125. Je pense au sondage Palace. Il y a des gens, des fois, qui aiment mieux pas rester dans le bateau qui est en train de couler.
Oui, mais là, c'est effectivement ce qu'on prétend ce matin, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que tu dis « je vais être aux prochaines élections », puis du jour au lendemain, sans même que la campagne soit officiellement lancée, ouais. T'es plus là.
Puis ça, honnêtement, moi, je suis un joueur d'équipe dans la vie. Ça, honnêtement, ça me chatouille. Les gens qui disent « c'est beau, je vais rester solidaire, je vais », puis finalement, oups.
Mais je l'ai pas dit ce matin, mais moi, au-delà de ça, la politique, si tu décides de t'engager, tu recules pas parce que tu penses que tu vas perdre. Si tu décides d'aller en politique, c'est que tu dis jusqu'au bout, je vais faire ce que je peux pour être élu. Et si je ne suis pas élu, au moins, j'aurai fait ce que j'ai pu. Puis ça, de décrocher parce que tu n'es pas à la hauteur selon tes propres besoins ou envies dans les sondages, bien, je me dis, tant mieux qu'on t'ait pas finalement sur le bulletin de vote. Mais je veux pas que des gens comme ça se présentent. Je vois Gabriel, il hoche la tête.
Non, mais je suis tellement d'accord avec toi parce qu'on veut pas des opportunistes. On veut des gens politiques qui sont là pour les bonnes raisons. Ça ne fait qu'augmenter le cynisme, selon moi, envers nos politiciens, ce type de départ-là. Je me trompe pas, Pascal, en disant ça?
Non, mais là, il est quand même au top depuis un petit peu.
Ouais, c'est ça, le meter, là, c'est juste le mot que j'ai en tête. Là.
Le baromètre.
Baromètre, merci, est pas mal élevé, en effet. Gab Jugard est avec nous pour parler d'économie. Gabriel, comment vas-tu, mon ami?
Ça va très bien, content d'être avec vous.
Cool. Gab, qu'est-ce que t'en penses de ce départ-là? Un petit sondage, puis hop, on va se sauver.
Ouais, écoute, moi, c'est sûr que je suis pas fan de ça, mais bon... Hein, je suis pas dans le secret des yeux, je sais pas ce qu'on a entre les deux oreilles ici, donc je respecte les choix, mais je suis pas fan non plus.
En effet. Hey Gabriel, avec plus de 145 000 règlements, le Québec est le champion canadien de la réglementation. C'est un fardeau réglementaire qui a coûté, OK, soyez bien assis, chers auditeurs et auditrices, 10,9 milliards de dollars aux entreprises québécoises en 2024. Puis après, on se demande pourquoi qu'on n'est pas compétitif. Coudonc, on a la clé entre nos mains.
Ben oui, mais... Je suis un peu fatiguant de toujours parler de réglementation, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des impacts concrets pour l'économie. C'est des entrepreneurs. Puis tu sais, quand on parle de 10,9 milliards de dollars d'impact, là, concrètement, ce que ça veut dire, puis ça, c'est des chiffres qui sont pris là, de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, c'est que les entrepreneurs, souvent, des PME, ils n'ont pas une équipe énorme d'avocats, ils n'ont pas une équipe énorme en administration, ce qui fait en sorte que ça leur prend beaucoup de temps. Puis ce temps-là, mais c'est du temps que tu ne peux pas utiliser pour innover, pour créer, pour vraiment t'occuper là, de ton entreprise autre que de la paperasserie. Et donc, cette augmentation-là, parce qu'il faut le dire, c'est une augmentation de 5 à 6 000 obligations réglementaires en un an seulement au Québec, c'est énorme. sais, on pourrait penser avec les derniers projets de loi, parce qu'il faut quand même le donner à la Coalition Avenir Québec, on a eu des projets de loi là, qui ont été mis de l'avant par la Coalition Avenir Québec dans le but de réduire la réglementation. Mais à la vue des chiffres, ce qu'on constate, c'est que malgré ces efforts-là, on est très, très, très loin de l'objectif de donner réellement de l'air aux entrepreneurs. Puis on continue d'ajouter des lois qui s'inscrivent, JF, dans une vision, j'ai envie de dire, avec de bonnes intentions, mais qui, au final, vont mettre des mécanismes supplémentaires qui vont nous coûter plus cher à nous. Un bon exemple, c'est le projet de loi 29 qui a été adopté en 2023 pour, là, je mets des guillemets parce que c'est l'intention, protéger la population sur des gros électros où on dit, ah, des fois, ils brisent plus rapidement qu'avant, tu le sais. Mais la réalité ici, c'est que rapidement, on a vu, je pense que c'est LG tout récemment qui a dit, ben regardez, quand ça va venir, en effet, là, nous, on le sait que ça va nous coûter plus cher d'offrir cette garantie-là parce que il y a toujours des garanties qui sont offertes, mais la garantie imposée par le gouvernement, ça va nous coûter 10% de plus. Puis il y a certaines estimées qui disent, ben les Québécois, pour leurs électroménagers, parce qu'on va être les seuls en Amérique du Nord, là, soyons clairs, ben ça va coûter entre 10 et 30% de plus. Donc, on a des bonnes intentions, mais au final, c'est nous autres, avec l'inflation qui coûte cher, qui allons payer plus. Et c'est ce type de multiplication de réglementations qui font mal au portefeuille et qui font mal aussi à nos entrepreneurs.
Tout à l'heure, on va parler avec Pierre Graff, qui est le PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce. Il va nous parler des problématiques de main-d'œuvre qui vont peut-être amener des entreprises à fermer. Mais la plus grosse problématique, Gabriel, c'est vraiment les règlements. Parce que quand je regarde dans ce que vous avez mentionné, aux Pays-Bas, une réduction de 25 % du fardeau réglementaire en 4 ans a permis de dégager 4 milliards d'euros.
C'est énorme. Donc ça, on le voit qu'on c'est possible de réduire de 25 % l'état de la réglementation. Puis on est allé aux Pays-Bas pour voir ça. Si on revient au Canada, puis qu'on s'en va en Colombie-Britannique, vous savez, à l'époque où il y avait une bonne gestion en Colombie-Britannique, là, oui. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans.
Oui, là, on a pris le tournant très NPD, très gauchiste là, en Colombie-Britannique.
Très québécois aussi, parfois, j'ai envie de dire.
Oui, t'as raison.
Mais ce qu'on a vu en 2001 et 2004, c'est franchement intéressant. C'est une réduction de 37 % des exigences réglementaires. Mais tu sais, on parle de règlement, de temps pour les entrepreneurs, c'est des choses concrètes, mais il y a aussi un élément qui est accompagné de ça. La Colombie-Britannique, pendant ce temps-là, a pu avoir un bon développement économique bien au-delà de la moyenne des provinces canadiennes. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est quand les entrepreneurs peuvent se concentrer sur leur entreprise, quand le temps qu'ils mettent n'est pas sur remplir de la paperasse, puis s'assurer de la conformité réglementaire, mais de créer, de tisser des liens, d'innover, c'est là qu'on crée de la richesse collective. Et qui dit développement économique, ben dit meilleur salaire pour les différents gens de la Colombie-Britannique, mais si on l'appliquait ici, ça serait pour les Québécois. Donc, c'est difficile de ne pas voir des choses émerger concrètement au Québec. Je peux t'en donner deux très rapidement. La première, pour moi, qui est évident, c'est ce qu'on appelle en anglais, pardonne-moi l'anglicisme, un « sunset clause », de dire « on va mettre cette réglementation-là, mais on doit en reparler dans 5 ans hein, ». C'est pas des vieilles réglementations qui s'empilent sur le bureau puis qu'on va jamais réviser. Non, non, dans 5 ans, ça va arriver à échéance, sauf si on décide de renouveler. De sorte qu'on s'assure que les gouvernements vont pas simplement dire « je vais en rajouter pour avoir de l'air beau devant la caméra puis intelligent », mais dire « est-ce que ce que j'ai mis il y a 5 ans ou mon prédécesseur a 10 ans a toujours lieu d'être ».
Oui, parce que ce que tu nous expliques là, Gabriel, c'est que là, il y en a tellement de règlements, quand c'est le temps de faire la révision de ces règlements-là, c'est le fouillis total, on n'est plus capable de comprendre pourquoi qu'on l'a mis.
On n'est plus capable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va en enlever un peu, mais c'est trop compliqué. Donc, les conséquences inattendues de la pile de règlements qui s'empile, ben, pour régler ces conséquences-là, plutôt que d'enlever la réglementation, on en rajoute. Donc là, on se dit, attends un peu, là, on va mettre une date limite, une date butoir, puis ensuite de ça, c'est aboli ou on la reconduit. Et de la sorte, on peut s'assurer d'avoir un État qui ne surréglemente pas et on n'arrive pas à 146 000 obligations réglementaires comme aujourd'hui au Québec.
Quand on fait ces règlements-là, Gabriel, puis je te fais un parallèle, hier, je parlais justement avec des agriculteurs qui disaient, ouais, mais tu sais, nous autres, dans le fond, là, on veut démontrer de l'ouverture pour un troisième. On veut démontrer de l'ouverture pour un TGV. Mais le problème, c'est qu'on est mis devant le fait accompli. On ne participe pas à la création du projet. J'imagine que ça doit être la même chose pour nos entrepreneurs. Paf, le règlement leur pète d'en face puis il n'avait pas vu venir.
Ah, c'est un bon point. Je suis pas mal persuadé que oui. Puis on a des gens au sein de l'État québécois qui vont travailler sur ces règlements-là. Puis je suis persuadé de leurs compétences, tu sais, ou du moins de leur. de leurs intentions, je devrais dire, mais le problème, c'est que parfois, quand on met une réglementation, on est vraiment en silo. On se dit, il y a un problème A, je règle le problème A, même si j'en crée un ailleurs. Et donc, il y a là le problème, l'exemple de la question de l'assurance gouvernementale pour les grandes entreprises, ben, plutôt sur les électroménagers, on est un bon exemple. On veut protéger plus qu'en ce moment, on leur augmente la facture mécaniquement. Et ça, ça s'appelle les conséquences inattendues et malheureusement, on le voit très rarement dans les analyses d'impact réglementaire. Donc, je suis persuadé que tous les règlements, il y a une bonne intention derrière, mais les intentions derrière la réglementation n'est pas garante du résultat qui découle de l'adoption de cette réglementation.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Jugard, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, le commerce entre le Canada et les États-Unis a reculé de près de 2 milliards de dollars depuis 2024. C'est pas surprenant avec les tarifs douaniers. Tu l'évalues comment, toi, au niveau du risque pour notre économie? Est-ce que c'est encore faible, c'est modéré ou c'est élevé?
Moi, j'ai plongé dans les données de Statistique Canada ce matin pour voir okay, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et ce qu'on voit, c'est que le premier trimestre de 2026, le volume d'échanges a diminué là, d'environ 2 milliards. Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont diminué 2,8 milliards dans le premier trimestre 2026 par rapport à 2024. Par contre, ce que l'article dit pas, mais que Statistique Canada nous montre, et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une rupture à partir d'avril 2026. Puis là, on se rappellera tout qu'est-ce qui s'est passé, là. La guerre en Iran. Mm-hmm. Le Canada exporte aux États-Unis 85 à 90 % de sa production de pétrole. C'est des millions de barils par jour. Et le prix du baril a explosé à la hausse. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour le premier trimestre, ça a reculé. Pour le deuxième trimestre, on a les données depuis hier, ça a pas mal augmenté. Le narratif a changé parce qu'on a eu une augmentation importante du prix qu'on est capable d'aller chercher pour notre pétrole. Alors, la dynamique, je la comprends. C'est vrai que c'est pas idéal parce que quand on regarde la croissance des exportations hors États-Unis, c'est beaucoup plus important que la croissance des exportations aux États-Unis. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'heure où on se parle, pour le dernier trimestre, on n'est quand même pas dans la même dynamique, mais c'est évidemment à associer au pétrole et pas parce que d'autres secteurs vont bien. Le secteur automobile, par exemple, a diminué de plusieurs milliards de dollars en volume d'échange. Donc ça, c'est sûr que c'est alarmant, mais on commence quand même à voir certaines diversifications de nos partenaires commerciaux.
Donc, on n'a pas à paniquer. L'indice est faible.
Donc, il est de modéré à faible, mais qui tend plus vers le faible. Si on se reparle dans quelques mois sur le sujet, je suis pas persuadé. Ça va être à voir. Mais faut pas trop s'alarmer pour le moment. Tu sais, on parle beaucoup du pétrole, mais le pétrole, c'est l'or noir au Canada. C'est quand même un des éléments. Avec la hausse du prix, ça augmente les revenus gouvernementaux, notamment au fédéral. Donc ça a un impact aussi sur la capacité de payer des différents programmes. Il y a trop de programmes au fédéral. Je pense que je l'ai dit 40 fois déjà depuis qu'on collabore. Mais ça risque que ça permet de le payer davantage.
Ouais, c'est ça qui est plate. C'est que tu nous dis des affaires 40 fois, mais le gouvernement change pas, lui. Donc c'est plus un problème gouvernemental qu'un problème de Gabriel Jugard. Gab, tu le sais, mon ami, c'est toujours un bonheur de te parler. Fais-nous signe quand tu auras quelque chose pour nous avec le plus grand des bonheurs.
Bonne fin de semaine, messieurs.
Hey, merci.
Et Pascal, bien entendu.
Yes. Salut, Gab. Salut. Gabriel Jugard, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Vous pouvez l'entendre dans Marceau le matin dans l'émission On en jase. On fait une courte pause et par la suite, on revient sur cette histoire rocambolesque dans un RPA où on a arrêté une dame qui souffre d'Alzheimer. On va parler avec Paul Brunet, directeur général au niveau de la protection des malades. C'est ce qui suit à Boulevard 101.
Boulevard.